Portrait de femme de notre matrimoine, c'est tout de suite avec Jacqueline Engrave et par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, c'est notre dernier portrait de femme.
Oui.
Pour l'instant, on va dire.
C'est le dernier de la série, en tout cas. Donc, on va parler d'une sculptrice très connue, mais son parcours n'est peut-être pas suffisamment connu, Camille Claudel. Camille Claudel, on pourrait dire aussi à son sujet de la puissance créatrice à l'enfermement à vie, un destin tragique. Elle est née à Ferrand-Tardenois le 8 décembre 1864 dans l'Aisne, numéro 10, chef-lieu 3 pour situer la géographie, fille de Louis-Prosper Claudel, conservateur des hypothèques et d'une fille de médecin. Elle a une sœur, Louise, et un frère, Paul Claudel, qui deviendra célèbre en tant qu'écrivain, poète et académicien. Son oncle est le curé du village de Villeneuve-sur-Cère, dans lequel la famille passait des vacances heureuses. Là, Camille fait ses premiers modelages en terre claise. Paul écrit ses premiers poèmes et Louise joue du piano, donc dans une complicité totale entre sœurs et frères. Le père est bientôt nommé à Nogent-sur-Seine, où Camille reçoit les conseils d'un jeune sculpteur, Alfred Boucher, élève à l'École des Beaux-Arts de Paris. Devant l'insistance de Camille pour aller étudier à Paris, Madame Claudel s'y rend avec ses trois enfants. Camille, à 17 ans, s'inscrit à l'Académie Colarossi, l'école des beaux-arts étant interdite aux femmes. Camille étudie dans le cours d'Alfred Boucher, mais quand celui-ci part à Rome pour concourir pour le prix de Rome, il demande à Auguste Rodin, autre sculpteur, de le remplacer auprès de ses étudiantes. Rodin remarque alors les dons prodigieux de Camille et la fait entrer dans l'un de ses trois ateliers. Il a 24 ans de plus qu'elle, mais très vite, ils deviennent amants, car pour Rodin, Camille incarne l'absolu, la beauté, le génie créateur. Elle collabore activement à sa réalisation de « La porte de l'enfer » 1881 et à sa sculpture « Les bourgeois de Calais » qui sont deux œuvres majeures géantes très célèbres d'Auguste Rodin. Mais cherchant à sortir de l'emprise du maître, qui d'ailleurs ne manquera pas de s'accaparer une part non négligeable de son œuvre, elle sculpte aussi pour elle-même. De 1885 à 1888, elle crée La femme accroupie, Sakuntala, des œuvres qu'elle décline en plusieurs versions et plusieurs matériaux. En 1892, elle fait la connaissance d'une fillette qu'elle sculpte et nomme La petite châtelaine, un très joli buste. En 1892, toujours, suite à un avortement, semble-t-il, sa rupture avec Rodin, qui refuse de se séparer de sa compagne Rose Beuret, est consommée. En 1893, Camille prend sa totale indépendance artistique. Elle loue un atelier avenue d'Italie, des mécènes la soutiennent, c'est un tournant dans son œuvre. Elle produit beaucoup à cette époque. La valse, l'implorante, le dieu envolé, les causeuses, la femme lisant une lettre, profonde pensée et l'âge mûr en 1898. Autant d'œuvres prouvant son autonomie, son audace, sa radicalité, bref, son talent exceptionnel. Son exposition au Salon des artistes est un énorme succès. Cependant, elle demeure meurtrie par le drame de sa relation avec Rodin, lequel, de son côté, rencontre le succès à l'Exposition universelle de 1900. Pour Camille, commence alors un lent processus d'autodestruction illustré par la sculpture géante Persée et la Gorgone en 1902, alors même qu'en 1905, elle reçoit enfin la reconnaissance de son œuvre avec l'exposition de ses sculptures à la galerie Eugène Blot. Cette année, elle sculpte encore une dernière version de Sakuntala ou l'abandon qu'elle intitule Vertum et Pomone. Mais le manque d'argent, le manque d'aide aussi, la difficulté de vendre aux collectionneurs, à l'État, les problèmes de santé croissants prenant la forme d'un délire de persécution, l'éloignement de son frère aimé Paul renforce son isolement et sa profonde solitude. Elle vit de plus en plus recluse, dans une souffrance psychique permanente. Le 3 mars 1913, son père, qui l'a toujours soutenu, meurt sans qu'on la prévienne. Une semaine après, sa mère en profite pour la faire interner dans l'asile d'aliénés de Ville-Évrard en Seine-Saint-Denis. Diagnostic, psychose paranoïde. Elle est mise à l'isolement, sans visite ni correspondance. Elle endure une souffrance de prisonnière, de privation de sa liberté individuelle. Des admirateurs de Camille feront des pétitions, alerteront la presse en vain pour demander l'abrogation de la loi de 1838 sur les aliénés. Restée presque complètement en vigueur jusqu'en 1990, cette loi créait un asile d'aliénés dans chaque département. Son interprétation permettait aux familles, entre guillemets, d'enterrer vivant un de leurs membres jugés encombrants. Le député Vivien, rapporteur le 18 mars 1837 de la commission préparatoire à cette loi, avait d'ailleurs envisagé avec une pertinence prémonitoire des situations où de coupables connivences pourraient provoquer l'hospitalisation abusive d'un parent gênant, par exemple faire passer pour folie la volonté émancipatrice d'une femme. C'est exactement ce qui est arrivé à Camille Claudel. En 1914, à cause de la guerre, elle est transférée à l'asile de Montfavet, près d'Avignon, dans le Vaucluse, loin des siens. Elle refuse de sculpter dans ces conditions. Elle ne sculptera plus jamais et restera 30 ans, tout le reste de sa vie, dans cet asile. Tragique internement, abandon total de ses proches, famille intransigeante, cruelle envers elle. On pourrait dire, selon les termes du philosophe allemand Herbert Marcuse, que cette famille est, comme d'autres, je cite, « une usine idéologique de la répression ». Alors que la famille, L majuscule, F majuscule, nous est, souvent mensongèrement, il est vrai, présentée comme un idéal de refuge, de nid douillet protecteur contre les rapports sociaux, souvent violents, de la vie extérieure. Pourtant, Camille Claudel, désespérée, envoie des lettres déchirantes à son frère Paul, qui, célèbre, retenu à l'étranger, ne viendra la voir qu'une douzaine de fois en 30 ans. Elle demande à sa mère de la faire revenir dans la maison familiale de Villeneuve, ce que recommandait son médecin en 1927, mais sa mère reste sourde à cet appel. Elle ne viendra jamais la voir, pas plus que sa sœur. Littéralement abandonnée, elle meurt le 19 octobre 1943, en pleine guerre, d'une hémorragie cérébrale due à la malnutrition. Elle a connu en effet à Montfavet la surpopulation, la promiscuité affreuse, les restrictions alimentaires qui provoquèrent une situation dramatique dans les hôpitaux psychiatriques où la malnutrition entraînait de nombreux décès. Deux mois avant la mort de Camille, le directeur de l'établissement avait affirmé à son frère Paul « Mes fous meurent littéralement de faim ». D'abord inhumé au cimetière de Montfavet, avec pour unique cortège le personnel de l'hôpital, ses restes seront transférés dans une fosse commune, car jamais personne de sa famille ne réclamera son corps. En 1951, Paul Claudel lui rend un hommage tardif, à travers une rétrospective de 36 de ses sculptures au musée Rodin. Son œuvre va tomber dans l'oubli total jusqu'aux années 1980, où on la redécouvre dans toute son ampleur grâce au mouvement féministe de cette décennie. Alors, des citations, si j'ai le temps. Une citation de Camille qui écrit au docteur Michaud. Écoutez bien. « On me reproche, ô crime épouvantable, d'avoir vécu toute seule, de passer ma vie avec des chats, d'avoir la manie de la persécution. » Et puis en 1951, Paul Claudel, à la radio, disait ceci de sa sœur. « Ma sœur Camille avait une beauté extraordinaire, de plus une énergie, une imagination, une volonté tout à fait exceptionnelle. Et tous ces dons superbes n'ont servi à rien. Après une vie extrêmement douloureuse, elle a abouti à un échec complet. C'est justement une vocation un peu différente de la mienne. Moi, j'ai abouti à un résultat. Elle n'a abouti à rien. Étrange hommage en vérité. À rien une œuvre magistrale que l'on peut admirer au musée Camille Claudel à Nogent. Ensuite, un brouillon d'une lettre inachevée et non datée que l'on peut situer vers 1929, une lettre de Camille à son frère. Mon cher Paul, je dois me cacher pour t'écrire et je ne sais pas comment je ferai poster ma lettre. La femme de chambre qui habituellement me rend ce service est malade. Les autres me dénonceraient au directeur comme une criminelle. Car dis-toi bien, Paul, que ta sœur est en prison. En prison, avec des folles qui hurlent toute la journée, font des grimaces, sont incapables d'articuler trois mots sensés. Voilà le traitement que, depuis près de 20 ans, on inflige à une innocente. Tant que maman a vécu, je n'ai cessé de l'implorer de me sortir de là, de me mettre n'importe où, à l'hôpital, dans un couvent, mais pas chez les fous. Chaque fois, je me heurtais à un mur. Comme si j'étais gâteuse, j'en ai froid dans le dos. Tu me dis « Dieu a pitié des affligés, Dieu est bon, etc., etc. » Parlons-en de ton Dieu qui laisse pourrir une innocente au fond d'un asile. Alors, en nota bene, on peut dire qu'à Paris, il y a une place qui porte son nom au coin de la rue du Cherche-Midi et de la rue de Vaugirard. Et puis à Nogent, 10 rue Gustave Flaubert, un musée ouvert le 26 mars 2017, plutôt récemment, et consacré à l'œuvre de Camille Claudel et à la sculpture de l'école française de la fin du 19e siècle et du début du 20e. On peut y admirer 45 œuvres de Camille Claudel. Et il y a une stèle commémorative de Camille Claudel au cimetière de Montfavet, près d'Avignon, qu'on peut voir. Je peux citer mes sources, toujours l'exposition « Notre matrimoine » du journal Clara Magazine, 2019, panneau numéro 11, « Parisienne » de Malka Markovitch, édition Ballant, 2017, « Dictionnaire intime des femmes » de Laura Adler, édition Stock, 2017, « Elles ont fait la France » de Philippe Valode, édition L'Archipel, 2006. Et puis « À voir ou à revoir » le film « Vol au-dessus d'un nid de coucou » de Milos Forman, 1975, sur le traitement des patients et des patientes dans les hôpitaux psychiatriques. Et puis bien sûr le beau film de Bruno Nuiten, Camille Claudel, avec Isabelle Adjani dans le rôle de Camille Claudel et Gérard Depardieu dans celui de Auguste Rodin. Voilà.
Merci beaucoup Jacqueline et je rappelle que toutes ces émissions donc sont retrouvables sur notre site www.fréquencemistral.com, onglet de Digne-les-Bains dans nos émissions. Et puis on se dit quand même à la semaine prochaine pour un bilan de toutes ces émissions et les points communs de ces femmes.
Oui, tout à fait, on verra tous les points communs de ces 30 portraits. Et aussi le lien avec l'actualité en ce qui concerne la situation des femmes notamment.
Merci.
Merci. À la semaine prochaine. Merci à vous.
Au revoir.
À la semaine prochaine. Au revoir.